Je suis présentement vraiment excitée parce que je vous présente le prochain bloc avec une invitée spéciale qui est avec moi en studio. C'est une fille que j'admire, je l'ai dit en entrée d'émission tantôt, pour qui j'ai énormément de respect, la boxeuse professionnelle Marie-Ève Dicker. Salut!
Allô, ça va bien?
Oui, puis merci de t'être déplacée en temps de COVID en plus, d'être venue en studio. C'est bien courageux de ta part, tu sais, comme si une boxeuse avait besoin de...
Oui, ben on fait avec les mesures sanitaires qui sont appliquées ici, là, dans les plexiglas et tout ça, j'ai l'impression d'être dans une bulle, donc pour moi, ça posait pas problème. Ça fait même du bien de sortir de la maison,
ah
je dirais.
écoute, j'en ai glissé un mot là, avant la pause. Ça fait, bon, tu as beaucoup de choses à nous dire là, parce que ça fait un an que tu es en attente pour affronter la numéro 1, Clarissa Shields. Là, vous avez enfin signé l'entente pour un combat le 5 mars. Peux-tu commencer en m'expliquant qu'est-ce qui a été si long là-dedans?
Est-ce qu'on a l'émission au complet? Parce que l'histoire est très longue.
Ben, vas-y, amuse-toi. On regarde pas le temps.
Je vais essayer de faire ça. Ouais. Bref, mais comme dirait mon copain, je prends toujours des détours à gauche et à droite. Donc, c'est rarement bref, mais je vais essayer de mon mieux.
Je te recadrerai au besoin.
Parfait. Donc, l'année dernière, au mois de février, on a signé ce contrat-là. Pour ma part, je devais boxer à la base au mois de mars contre une autre adversaire. Puis quand cette offre-là est tombée, pour nous, c'était une occasion unique, une chance comme on a peu dans une carrière. Donc pour nous, c'était un non-sens de ne pas le faire. Donc on a dit « let's go ». Moi, j'étais déjà dans le gymnase depuis décembre l'année dernière. Donc on a juste pris une petite pause, poursuivi le camp d'entraînement. Pandémie arriva et comme la vie de tout le monde, la mienne a été bouleversée. Donc on annonce le report de mon combat qui devait avoir lieu le 9 mai. On annonce le report pour juin. Ensuite de ça, en avril, on annonce le report pour juillet. Ensuite de ça, pour août, pour septembre, pour octobre, pour novembre, pour décembre.
C'était toujours la COVID qui repoussait ça. C'était pas des clauses au contrat ou c'était pas...
Ben, en fait, c'est sûr que la COVID était... la COVID avait le dos large dans ce cas-ci parce que, je veux pas, c'était difficile d'organiser un événement comme on le connaissait avec des spectateurs, avec des réseaux télé et tout ça. Donc, la logistique de tout ça, avec le protocole sanitaire et tout ça, ça devenait très, très, très complexe. Donc, on devait renégocier l'entente quand même assez régulièrement pour s'adapter à cette nouvelle situation-là. Et à tous les mois, c'était repoussé d'un mois. Donc, pour moi, j'ai passé vraiment l'année en camp d'entraînement en pensant que j'allais boxer le mois prochain. Mais pendant 12 mois de temps. Donc, quand le contrat est tombé, l'entente finale est tombée la semaine dernière, moi, j'y croyais pas. Je dois dire que ma réaction était très neutre. Et c'est Yvon Michel, mon promoteur, qui m'a dit « Marie-Ève, tu peux t'emballer. »
Oui, c'est ça. Okay. Peux-tu le dire à ta face que t'es contente?
Ben, c'est ça, parce que j'étais zéro émotion. C'était comme « Ah, super. » Mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'occasion de ma vie, c'est le combat de ma vie que je m'en vais livrer. Et il a fallu qu'Yvon me ramène à l'ordre et me dise « Marie-Ève, c'est vrai de vrai cette fois-ci. »
La presse a d'ailleurs titré un article sur toi cette semaine, « L'aboutissement d'une vie. » Donc, c'est pas exagéré, tu viens de le dire.
Non, c'est ça, c'est pas exagéré parce que dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la boxe, il existe quatre associations différentes. Moi, je suis détentrice de la ceinture IBF, mais il en existe trois autres. Puis lorsqu'on est un boxeur, ce qu'on veut par-dessus tout, c'est mettre la main sur les quatre ceintures pour être le champion incontesté.
On appelle ça l'unification.
Exactement.
Ça, c'en est un combat d'unification.
C'est unification dès qu'il y a deux ceintures en jeu. Donc, il peut y avoir deux associations en jeu et on appelle ça un combat d'unification. Dans ce cas-ci, c'est le champion incontesté. C'est le undisputed qu'on appelle parce que celle qui va gagner ce combat-là va posséder les quatre ceintures, les quatre titres. Donc, pour un boxeur, c'est vraiment, comme je disais, le point culminant d'une carrière de réussir à faire ça. C'est vraiment une occasion en or.
Donc, toi, tu as la ceinture IBF. Elle a les ceintures WBC et WBO.
Exactement.
Et là, ils ajoutent à ça la ceinture de super championne WBA qui va être attribuée cette soirée-là. Et c'est ce qui fait l'enjeu des quatre ceintures.
Exactement. On dirait que tu connais ça, la boxe.
Ah ben j'ai lu un petit peu avant l'entrevue. Mais tu me disais hors d'onde que même toi qui fais ça, des fois, t'es mêlé.
Oui, il existe beaucoup d'associations, beaucoup de ceintures. Là, on parle des ceintures majeures, des quatre ceintures majeures. Il y en a quatre, mais il y a aussi des ceintures mineures. On parle de NABF, NABO, WBC intercontinental. Il y a la ceinture francophone et tout ça. Donc, il y a des sous-ceintures à ces quatre ceintures-là. On est sûr d'une chose en boxe, tout le monde a des pantalons qui tiennent.
Oui, mais ça, aimes-tu ça? Je veux dire, ça fait pas de l'ombre un peu aux championnes?
Bien, c'est sûr que, comme je disais, tout à l'heure, de devenir la championne incontestée, c'est une façon de m'assurer d'être la championne. c'est plate à dire, mais c'est très politique et c'est gouverné un petit peu par l'argent. C'est un sport qui est gouverné par l'argent. Et quand on parle de ceinture, on parle de sanctions, on parle de monnaie, de choses comme ça. Donc, c'est ce qui permet un petit peu de faire vivre le sport, de faire vivre les associations. Mais je pense que pour ma part et pour plusieurs boxeurs, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir qu'une ceinture.
Je veux juste revenir à l'historique de la signature de ce contrat-là, la COVID et tout. Je regardais l'historique de tes combats depuis tes débuts dans le professionnel. Ça sent, c'est le festival de l'adversaire remplacé à la dernière minute. Tu as vécu ça plein de fois, combat annulé, ça a l'air l'enfer. Est-ce que c'est toi qui es malchanceuse ou c'est comme ça?
Je pense que j'ai un petit brin, peut-être pas de malchance, là, mais je pense qu'on essaie de tester mes capacités à rester concentrée puis à m'adapter justement aux imprévus. Mais c'est sûr que chez les femmes, comme il y en a moins, des fois, c'est un petit peu plus difficile d'aller trouver des adversaires qui sont sérieux, des adversaires qu'on peut faire venir. Donc, des fois, il va y avoir des désistements à la dernière minute ou des fois, juste un adversaire qui va être connu à quelques jours du combat. C'est quelque chose qui, pour les hommes, est fréquent, mais se retrouve d'autant plus fréquent chez les femmes parce que le bassin est un petit peu plus petit aussi, là.
Donc, ton combat, le combat de ta vie, a lieu le 5 mars, 10 mois plus tard que prévu. Et là, ça va être à Flint, au Michigan. C'est prévu depuis le début que ce soit là-bas, si je me trompe pas?
C'est sûr qu'au départ, les négociations devaient être pour le Madison Square Garden à New York. Donc, ça ajoutait le côté un petit peu magique à cet événement-là. Par contre, dès que le contrat avait été signé, ça avait été vraiment convenu que c'était à Flint. On avait parlé dans les pourparlers et tout ça parce qu'il y a eu des bulles qui ont été créées à Vegas, à New York et des choses comme ça. Ça avait été évoqué, mais dans ce cas-ci, on retourne un petit peu à la case initiale.
Flint, c'est la ville natale de Shields, ton adversaire. Est-ce que ça lui donne un gros avantage?
C'est sûr que si...
Est-ce qu'il va y avoir des spectateurs, premièrement?
C'est encore la question qui est en train d'être discutée au niveau des promoteurs et tout ça. Donc, pour le moment, moi, je suis pas au courant de ça. C'est sûr qu'on devrait le savoir sous peu. Mais c'est sûr que pour un athlète qui est pas bien prêt mentalement d'aller en terrain un petit peu hostile, d'aller chez son adversaire, c'est quelque chose qui pose problème. Mais pour moi, ça fait juste ajouter à la grandeur du défi. Et plus le défi est grand, plus j'ai de l'énergie, plus j'ai du gaz pour aller le relever. Puis moi, ça fait juste comme ajouter à la pile des raisons pour lesquelles je suis motivée et je veux faire ce combat-là.
Est-ce que je me trompe ou c'est la première fois que tu vas te battre à l'extérieur du Québec, du moins aux professionnels?
Oui, exactement. Okay. Chez les professionnels, c'est la première fois que je vais devoir m'exiler. Par contre, chez les amateurs, je suis allée un petit peu partout à travers la planète. Je suis allée aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Irlande. Donc, pour moi, d'être en terrain inconnu, c'est pas une situation que je suis pas à l'aise. Et majoritairement, j'ai toujours très bien performé à l'extérieur. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange, là.
Parle-moi de cette adversaire, Clarissa Shields. Elle a une fiche de 10 victoires, aucune défaite, donc une belle fiche immaculée, mais tu as une encore meilleure fiche qu'elle. Toi, tu es à 17-0. À quel point la fiche, c'est quelque chose de déterminant? Parce que, bon, vous êtes toutes les deux invaincues. Toi, tu as plus de combats qu'elle, mais ça reste sur papier, ça, là.
Oui, c'est sûr que dans la boxe, c'est quelque chose qui a été longtemps reproché à la boxe. Des champions de papier, comme on appelait, c'est-à-dire des boxeurs qui évitaient un petit peu l'adversité, qui évitaient les adversaires de renom pour préserver cette fiche-là. Par contre, maintenant, c'est des choses qu'on voit de moins en moins, les boxeurs veulent affronter les meilleurs pour devenir les meilleurs. Donc, ce sentiment-là fait que les fiches sont un petit peu moins importantes, un petit peu comme chez les amateurs. Chez les amateurs, qui ont des défaites à notre fiche, des choses comme ça, c'est pas important parce que ce qui compte au bout du fil, c'est l'expérience. Chez les professionnels, ce qui compte, c'est le défi relevé, la qualité de l'adversaire qu'on va avoir à affronter. Donc, je pense que de moins en moins, on porte attention à une fiche, mais plutôt aux adversaires qui ont été sur cette fiche-là.
Moi, ce que j'aime beaucoup de ce combat-là, c'est que c'est une analyse à deux pièces que je vais faire, mais il y en a une de vous deux qui aura pu une fiche à zéro en sortant de là.
C'est ça.
Donc, quand même, il y a un enjeu-là.
Oui, exactement, il y a un enjeu-là. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, les quatre ceintures en jeu. C'est un petit peu la bataille, la meilleure américaine contre la meilleure canadienne. On sait, en ce moment, il y a beaucoup de conflits entre le Canada et les États-Unis. J'ai un petit peu dans ma tête l'image de Rocky IV quand Rocky s'en va en Russie. Mais c'est un petit peu comme ça que je me sens. Donc, il y a vraiment tout plein de petits facteurs compétitifs, des petits facteurs qui ajoutent des étincelles à ce combat-là. Et oui, comme tu le disais, il y en a une des deux qui va perdre son zéro.
Comment tu te prépares pour l'affronter? Est-ce que la préparation physique est la même? Puis au dernier instant, vous ajoutez un peu la stratégie par rapport à l'adversaire ou comment, ou si tout le long de ta préparation, c'est juste en fonction de cet adversaire-là?
Ça a été particulier cette fois-ci parce que c'était la première fois où on a connu l'adversaire aussi longtemps d'avance que ça. Donc, ça fait un an que je me prépare pour elle. physiquement, stratégiquement, mentalement. Donc, je pourrais pas dire que c'est une préparation qui est conventionnelle. C'est pas quelque chose dans lequel je suis en terrain connu. Je dirais que au moment où on se parle, le gros du travail est fait. Ça fait un an qu'on travaille là-dessus. Et ce qu'on veut, oui, on a des petites choses à peaufiner. Il y a les derniers détails à peaufiner. Mais ce qu'on veut, c'est arriver 100% en forme et en santé pour ce combat-là. Donc, ça va être un gros travail de gestion au niveau de mes efforts, mes énergies versus les gains qu'il nous reste à aller chercher.
Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as regardé tous les combats de cette fille-là, les vidéos, tu sais comment, tu sais tout sur elle?
Je les connais par cœur.
C'est vrai? Oui. Puis tu sais qu'elle a fait la même chose avec toi, là.
Exactement. Ben, en fait, je sais pas. Il y en a qui disent que comme elle fait un virage vers le MMA, qu'elle a pas vraiment la tête à la boxe et tout ça, puis nous, on soupçonne peut-être une stratégie de nous faire croire qu'elle serait pas prête adéquatement pour ce combat-là. Ben, nous, on aime mieux se dire qu'on va avoir la meilleure version d'elle, la meilleure Clarissa Shields en avant de nous, et on est prête à toute éventualité.
Physiquement, vous avez exactement la même grandeur.
Oui.
Et elle a 25 ans, t'en as 34.
Oui.
Ça, est-ce que c'est quasiment une décennie quand même? C'est beaucoup d'années d'expérience?
Merci beaucoup de me vieillir, c'est très gentil.
T'as quel âge?
Ben, j'ai 34.
C'est ça?
Ben, c'est ça. Non, mais de réaliser qu'on a une décennie.
De te faire réaliser, oui, okay, ça, tu l'avais pas réalisé?
Non, pas encore.
Mais, excuse-moi.
Ben non, c'est correct. C'est sûr que si en entraînement, je voyais que mon rendement commençait à diminuer, si je sentais que c'était d'autant plus difficile, que la récupération était devenue de plus en plus difficile, que j'allais pas chercher les mêmes objectifs, les mêmes scores, peut-être que je sentirais que ça poserait une différence. Mais dans le cas où j'ai l'impression de m'améliorer continuellement, de repousser mes limites, de repousser les statistiques de mes entraînements. Moi, je suis une fille qui est très cartésienne. Tu me donnes des chiffres, je comprends tout. Donc, de voir ces chiffres-là qui sont en continuellement en augmentation. Donc, pour moi, je n'ai pas l'impression que c'est un 34 ans qui va me nuire, mais plutôt un 34 ans d'expérience dans lesquelles les 10 dernières années ont été tellement bénéfiques pour moi. Et je pense que c'est plutôt un avantage pour ma part, là.
Ton dernier combat, ça remonte au 23 novembre 2019. Donc, ça fait plus d'un an. Elle, c'était en janvier 2020, un petit peu après, mais ça ne change pas grand-chose rendu là. C'est quoi l'impact direct d'avoir aussi peu boxé en situation de combat depuis aussi longtemps?
C'est sûr que dans mon cas, c'est vraiment du jamais vu parce que depuis le début de ma carrière, j'enchaîne les combats. Je suis reconnue pour être une boxeuse qui est très active. Donc, c'était des 3, 4, 5 combats par année même. Donc, pour moi, ça a été un petit peu difficile. On a vraiment dû pallier à ça durant l'entraînement, d'aller chercher des défis supplémentaires, de trouver des façons de reproduire cette énergie-là, cette adrénaline-là, pour que je me sente un petit peu en situation de combat. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans ce cas-ci, c'est qu'on est vraiment sur le même pied d'égalité, dans le sens où c'est pas comme si elle avait boxé il y a
non,
trois
c'est ça,
mois.
Vous êtes,
ouais. On est vraiment à la même place. Donc, il y a certaines personnes qui disent peut-être qu'on aurait faire un combat de remise en forme. Ça aurait été peut-être quelque chose qui aurait été envisagé si, dans son cas, elle avait boxé il n'y a pas longtemps et pas moi. Là, on aurait peut-être essayé de mettre les choses sur un pied d'égalité. Dans ce cas-ci, les deux, on est au même plan.
Il n'y aura pas d'excuses.
Non, exactement.
Il y a une autre particularité dans le combat du 5 mars, c'est qu'il va se tenir dans un gala de boxe 100% féminin.
Oui.
Alors, toute une carte féminine avec ton combat en carte principale, ça s'appelle Her Historic Night. Ils ont fait un jeu de mots.
Wow.
Tu l'avais pas vu?
Non.
C'est beau, hein? Mais est-ce que ça change quelque chose, ça? Ça te fait quoi? Ou est-ce que c'est une fierté? On en est rendu là, on fait des galas de boxe féminin.
Je sais pas trop comment l'aborder parce que pour moi, quand on parle d'égalité, c'est pas de faire quelque chose de spécifique pour quelqu'un. Dans le sens où on veut aller chercher l'égalité, ben justement, on veut mettre les hommes et les femmes sur le même pied dans le sens où, ben, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit une carte entièrement masculine, féminine, pour moi, ça change peu de choses. Par contre, c'est quand même une belle pensée de le faire à la Journée internationale de la femme. Donc, je reconnais le côté positif de tout ça, mais pour moi, ça change pas grand-chose. Et au final, c'est le combat contre Clarissa Shields qui m'intéresse, là.
Dans un contexte où l'égalité des sexes est de plus en plus dans l'actualité, toi, tu le vois comment dans la boxe? Est-ce que la boxe féminine a tout le respect qu'elle devrait avoir, selon toi?
Je pense que cette année a été vraiment déterminante. Je pense vraiment qu'on a fait beaucoup de chemin cette année-là. Par rapport à ça, on a mis de plus en plus de femmes en avant-plan, justement dans les galas post-COVID, là, post-pandémie. Les premiers galas qu'on a commencé à organiser, on mettait beaucoup de femmes sur les galas. Et je sens que de plus en plus, les gens sont intéressés et apprennent à aimer la boxe féminine qui, un petit peu comme le tennis, on ne peut pas comparer le tennis masculin au tennis féminin. Il y a quelque chose de particulier dans chacun. Puis il faut avoir ce regard-là. On ne peut pas regarder les mêmes critères parce qu'au tennis masculin, des services à la vitesse des flèches, des as, il y en a à profusion. Tandis qu'au tennis féminin, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de stratégies.
Beaucoup de gens préfèrent le tennis féminin, exactement. J'en fais partie.
Ben, exactement, et je pense qu'on doit un petit peu en arriver là avec la boxe. Il faut que les gens arrêtent de regarder la boxe féminine avec les mêmes yeux qu'on regarde la boxe féminine, c'est-à-dire avec les mêmes critères. On a besoin d'un nouveau regard. Puis je pense que tranquillement, c'est ce qu'on est en train d'accomplir avec la boxe féminine. Et de plus en plus, les femmes sont en mesure de gagner leur vie de leur sport, ce qui fait qu'ils se consacrent à 100% à leur entraînement. Et ça, c'est bénéfique pour les spectateurs parce que le spectacle, la qualité du spectacle s'en trouve grandement améliorée, là.
Et justement, comment va la business de la boxe féminine?
Je pense que c'est particulier parce que elle est peut-être plus en santé maintenant qu'avant la pandémie. On dirait qu'avant la pandémie, on faisait pas tant de place que ça à la boxe féminine. Dans ce cas-ci, on dirait que c'est particulier, ça commence à augmenter. Puis j'ai vraiment l'impression que les prochaines années vont vraiment être très déterminantes et je pense que c'est vraiment de bon augure pour la boxe féminine dans les prochaines années.
Bon, écoute, ma prochaine question, j'ai hésité toute la semaine à savoir si je t'ai posé ou pas, puis je vais te la poser, OK? Dans un monde parallèle où l'éthique et la morale n'existent pas, est-ce qu'à poids égal, une fille pourrait affronter un gars?
Aïe. C'est difficile à dire parce que en entraînement, moi, je m'entraîne avec beaucoup d'hommes.
Ouais.
Mes partenaires d'entraînement, ce sont des hommes parce que, ben, on se le cachera pas, le bassin est plus petit. Donc, d'aller chercher des partenaires d'entraînement de qualité, c'est difficile. Donc, je pense que dans cette optique-là, est-ce qu'une femme peut affronter un homme à poids égal? Oui. Est-ce qu'une femme peut avoir la même performance que le meilleur de la catégorie chez les hommes? Je pense pas. Je m'explique, chez les 154 livres, je pense pas que je pourrais battre le champion masculin des 154 livres.
Mais est-ce qu'on peut retrancher une coupe de livres, par exemple, ou à quel poids d'homme tu serais à l'aise d'y aller?
Je pense pas que ce soit tant une question de poids, parce que chaque catégorie de poids a quelque chose de spécifique. Plus on descend en catégorie de poids, plus la vitesse est incroyable, la vitesse est spectaculaire. Donc, des fois, ce sera pas nécessairement au niveau de la force de frappe, mais au niveau de la vitesse d'exécution que la femme peut-être pourra pas aller chercher. Par contre, ce que je suis prête à dire, c'est qu'en descendant dans les classements, en allant chercher des boxeurs professionnels qui sont moins hauts, peut-être des boxeurs d'un plus de second plan, à ce moment-là, peut-être que certaines femmes pourraient compétitionner contre des hommes.
Est-ce que c'est quelque chose d'excitant pour toi? C'est-tu quelque chose que tu aimerais voir ou c'est pas une nécessité?
Pour moi, c'est pas une nécessité parce que je le disais tout à l'heure, on doit essayer de former les amateurs à apprécier la boxe féminine d'une façon différente. Donc, à ce moment-là, pourquoi on irait les comparer aux masculins? On reviendrait un petit peu à la même étape qu'on est là en ce moment où on regarde des combats de femmes en disant « Ouais, mais ils sont moins vite. Ouais, mais ils cognent moins fort que les hommes. » On essaie de changer ça. On essaie d'amener les spectateurs à apprécier l'aspect tactique, l'aspect explosif, l'aspect endurance. Et là, on revient qu'on essaie de remélanger ça. Donc, je pense pas que ce soit pertinent. Par contre, c'est fort utile en entraînement, je vous le confirme.
Je suis en entrevue avec Marie-Ève Dicker, boxeuse professionnelle, et on va aller à la pause. Après la pause, on va parler de ton enfance. Es-tu prête? Non, mais pour vrai, à 6 ans, tu as commencé le karaté et à 11 ans, tu étais ceinture noire 5 dan.
Non, ceinture noire.
Les
dan noires, non, c'est ça.
Okay,
exactement.
Mais quand même, tu étais ceinture noire à 11 ans. Alors, on parle de ça après la pause. Je veux comprendre ce qui s'est passé.
C'est difficile des fois à comprendre.
De retour avec Marie-Ève Dicker, boxeuse professionnelle, 34 ans, de Saint-Eustache. Puis j'aime ça le rappeler, tu viens de chez nous et c'est le fun. Tu viens d'être nommée cet automne par le magazine américain The Ring, deuxième meilleure boxeuse au monde dans la catégorie super mi-moyen. T'es détentrice, tu l'as dit tantôt, là, de ceinture de la IBF dans ta catégorie, mais d'être nommée la deuxième au monde par The Ring, est-ce que c'est un ajout? Qu'est-ce que ça fait?
C'est sûr que c'est un accomplissement en soi. Par contre, moi, je suis jamais rassasiée, donc c'est le numéro un qui m'intéresse. Et ça fait une belle petite fleur, là. C'est un beau petit velours d'être nommée numéro deux, mais pour moi, c'est le numéro un que je vise, puis c'est ce que je peux accomplir lors de mon prochain combat.
On l'a dit avant la pause, là, à 6 ans, tu as commencé le karaté. À 11 ans, tu avais ta ceinture noire et tu remportais le championnat canadien.
Ouais.
Donc, ton sport de prédilection, le tout premier que tu as fait, c'est le karaté.
Oui, moi, j'étais une fan finie des Tortues Ninja parce que je trouvais ça vraiment cool qu'ils se battent comme ça parce que j'adorais me tirailler. Je trouvais ça cool qu'ils se battent, qu'ils se défendent, mais qu'ils ne se prennent pas au sérieux. C'était blague par-dessus blague, puis ça cadre vraiment avec ma personnalité. C'est comme ça que je suis dans la vie, moi. Je ne prends jamais rien au sérieux. Je suis tout le temps de bonne humeur, mais j'aime me battre. Et j'étais un enfant qui bougeait quand même beaucoup. Donc, mon cousin était déjà inscrit dans le karaté. Ma mère m'a proposé de commencer et ça a été l'histoire d'amour.
Qu'est-ce que t'as aimé de ce sport? Parce que le karaté aussi, c'est pas, il y a une discipline là, oui, rattachée à ça. C'est pas juste se frapper dessus, au contraire. Là.
Ben c'est sûr que quand j'étais jeune, je suis pas sûre que je comprenais les choses de la même façon, dans le sens où je réalisais pas que, en fait, je pense que c'est cette discipline-là, cette structure-là, qui me permettait de bien me sentir. Moi, je suis une fille qui a besoin de cette structure-là dans la vie, et autant que je suis désorganisée, que je suis frivole, que je suis un petit peu tête en l'air, c'est cette structure-là qui me permet de bien me sentir. Puis c'est un petit peu la même chose avec la boxe. Lorsque je suis en camp d'entraînement, que je sais à quelle heure je vais m'entraîner, à quelle heure je vais manger, que ma journée est construite en fonction de mon entraînement, je me sens bien. Lorsque je suis en période un petit peu en dehors de camp d'entraînement, quand je suis en vacances, c'est parfait, pas de routine, pas d'heure, je suis bien. Après une semaine ou deux, là, je me sens bizarre, je me sens un petit peu à l'envers. Puis je pense que lorsque j'ai commencé le karaté, que j'ai trouvé cette discipline-là, cette rigueur, cette éthique de travail-là, ça a vraiment cadré avec ma personnalité. Puis j'ai vraiment accroché à cet art-là.
Tu as été sacrée 5 fois championne du monde, 4 fois médaillée d'argent et 3 fois de bronze. Tu as remporté 18 championnats de Canadiens. Et là, toi, ton rêve, c'était d'aller aux Olympiques en karaté. Oui. Il n'y avait pas de karaté aux Olympiques. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que tu as changé de sport?
Oui, définitivement. En fait, pour la première année, le karaté va être à l'essai aux Jeux olympiques, oui, de Tokyo cette année.
Ça te fait quoi, ça?
Je suis vraiment contente.
Mais as-tu un petit pincement? Est-ce que tu... Ben là, clairement, tu as tellement de succès en boxe, ouais, que tu ne dois pas vivre dans le regret. Mais est-ce que quand tu vois ça, tu fais que Colin, j'aurais pu continuer de faire du karaté puis je serais allée aux Olympiques?
En fait, non, parce que à l'époque, quand j'ai fait le saut, je ne pensais pas aimer la boxe autant que ça. Moi, j'ai vraiment fait le saut, comme tu l'as dit, pour participer aux Jeux olympiques. Le karaté n'était pas aux Olympiques. J'avais le choix entre le taekwondo ou la boxe, qui étaient des sports de combat. Puis, j'ai dit, je peux donner les meilleurs coups de poing, coups de pied, je vais aller boxer. C'est vraiment dans cette optique-là que je suis rentrée dans un gym de boxe. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec le sport. J'aimais le karaté, j'aimais la discipline. Par contre, le dépassement de soi, le fait que tu n'aies pas de marge d'erreur à la boxe, comparativement au karaté, où des fois, c'est un petit peu moins douloureux. Des fois, ce sont des combats de 2 minutes. Fait qu'un combat, c'est 2 minutes. Donc, tu sois un petit peu moins en forme cette journée-là, que tu aies fait un petit peu d'excès au niveau de la nourriture, de l'alcool la veille, ça a plus ou moins d'impact direct. En boxe, par contre, avec les catégories de poids qui sont super strictes, avec les combats qui sont plus longs, tu n'as pas le choix d'être là à 100%. Puis moi, ça cadre avec ma personnalité. Je suis all-in dans tout ce que je fais. Moi, je ne peux pas faire quelque chose à moitié. Donc, quand j'ai commencé la boxe, je suis vraiment tombée en amour et j'ai dit « wow ». J'ai trouvé ce que je veux faire pour le restant de ma vie.
Ah oui, hein?
Donc, pour moi, j'ai pas de regret à dire que le karaté va être aux Jeux olympiques. Et je suis même plutôt heureuse parce que j'ai des jeunes élèves que j'ai commencé à enseigner quand j'avais mon école de karaté qui ont la chance maintenant d'accomplir ce rêve-là que je caressais quand j'étais jeune. Donc, pour moi, je suis juste tellement contente pour tous ces jeunes-là.
Il y a très certainement des compétences que le karaté t'a donné, oui, qui te servent à la boxe. Ce serait lesquelles?
Moi, je pense que c'est au niveau de l'éthique de travail, au niveau de la rigueur, au niveau du respect de mes entraîneurs, du respect des consignes. Je pense que c'est ce qui fait l'athlète que je suis aujourd'hui. Puis, je suis pas certaine que sans ça, je serais rendue au niveau où je suis rendue.
Tu as commencé la boxe à 24 ans.
Oui.
T'es rapidement passé pro. Alors, oui, tu ne seras pas allé non plus aux Olympiques en
non.
boxe.
En fait, j'étais championne canadienne chez les amateurs et j'ai subi une grave commotion cérébrale l'année de sélection pour les Jeux olympiques et j'ai été mise hors du ring pendant 1 an de temps. Donc, j'ai dû me poser la question, est-ce que je veux faire un autre cycle de 4 ans chez les amateurs pour participer aux prochains Jeux olympiques ou... je tourne la page et je me concentre sur mon prochain rêve qui était de devenir athlète professionnel et je le fais. Finalement, c'est ce que j'ai décidé de faire puis je le regrette en rien.
Ça a dû être vraiment difficile. Là. C'est ton rêve depuis que tu étais tout petite d'aller aux Olympiques. C'est,
ouais,
c'est un choix déchirant.
Mais c'est sûr que ça a été un choix déchirant, mais mon entraîneur a vraiment bien fait les choses parce que lors de mon dernier combat amateur, il m'a fait affronter la championne des Jeux panaméricains, celle qui était en lice pour représenter le Canada aux Jeux olympiques. C'était un combat d'exhibition parce qu'on était 2 catégories de poids différentes, donc il n'y avait pas de gagnant décerné. Mais à la fin du combat, je savais que j'avais ma place. Donc, pour moi, ça a été une façon de tourner la page et de réaliser que ce n'était pas une question de compétence, mais plutôt une question de circonstance. Donc, j'ai vraiment regardé en avant, puis je n'ai plus jamais regardé en arrière, je dirais, là-dessus.
24 ans pour commencer à boxer, c'est vraiment tard.
Ouais.
Surtout, là, on regarde les générations. En ce moment, les jeunes commencent, ouais, très jeunes. Est-ce que tu as senti que tu partais de loin? Est-ce que ça t'a nuit, ça?
En fait, oui, j'ai senti que je partais de loin, mais je pense que j'ai pu tourner ça en positif parce que le fait que je sentais que je partais tellement de loin, j'ai mis les bouchées doubles, triples, puis peut-être même quadruples pour en arriver à ce niveau-là. Et c'est sûr que mon background en karaté m'a aidé énormément au niveau de mes agilités, de mes déplacements, de mes capacités d'analyse du sport et tout ça. Mais je dois dire que le fait que justement j'avais commencé si tard que ça, j'ai vraiment senti le besoin d'en faire beaucoup plus que les autres. Puis je pense que ça a été la clé du succès.
Point. Voilà, ouais, du succès.
Du succès, point.
Je me demandais, y a-t-il une suite? Ben, alors, tu as fait plus de 50 combats amateurs. Oui. Et c'est en 2015 que tu as fait ton passage au professionnel. Et aujourd'hui, tu as une fiche immaculée de 17-0. Donc, tu sais, tantôt, j'ai dit qu'une de vous deux allait avoir un petit 1 sur cette fiche-là. Je vais vraiment te souhaiter que ce soit pas toi. Qu'est-ce que je te souhaite à part la victoire là, pour ce combat-là?
Moi, je dirais bon succès. Parce que le succès, je pense que c'est la base de tout. On n'a pas besoin de chance, on n'a pas besoin de rien. Si on se concentre sur la tâche qu'on a à faire, on réussit.
Merci infiniment de ton passage, Marie-Ève, t'es super fine. Voilà, on est à la fin de nos deux premières heures de Sport Ensemble. J'espère que vous avez apprécié l'émission. J'espère que vous avez appris, que vous avez été divertis. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur la page du 985 dans l'onglet de l'émission. Je vais vous lire tous et chacun avec grande attention. Merci d'avoir été là. À dimanche prochain.